Place publique, Sébastien Lecoeur, Philippe Candeloro.
Notre invité de ce soir n'est rien de moins qu'un champion du monde, multi-champion de France, médaillé olympique et vice-champion d'Europe de sa discipline, le patinage artistique. Philippe Candeloro, bonsoir.
Bonsoir.
On va d'abord vous remercier d'être avec nous, de nous avoir consacré quelques temps dans ce rendez-vous Espace Public sur France Bleu Creuse pour parler de vous, de cette carrière, de cette belle carrière. On va y revenir. Pour commencer, Philippe Candeloro, ce sont des origines italiennes par le papa. C'est de là qu'on puisse cette générosité et puis à la fois cette force de caractère.
C'est exact, en fait, c'était mon père qui était italien, des Abruzzes, c'est 50 km au sud de Pescara, sur la côte adriatique. Donc un petit village perché dans les montagnes qui était très sympathique. Papa italien, maman française, normande. Mon père était maçon, ma mère comptable. Et puis voilà, Luigi lui par contre nous a quittés il y a 4 ans et ma mère maintenant habite un peu en Bretagne. 6 mois de l'année en Bretagne, 6 mois de l'année à Antibes. Voilà, tout se passe bien. Pour l'esprit familial.
Alors jusqu'à présent, on n'a pas parlé de patinage artistique. On va voir comment tout cela arrivait. Avant le patin, il y avait quand même pas mal d'autres passions. La moto, les super-héros. Je crois que l'homme qui valait 3 milliards, ça marchait plutôt pas mal.
Oui, ça, c'était plutôt en même temps, on va dire. Moi, j'ai commencé par la natation au niveau sportif, plus que le patinage, puisque j'ai découvert le patinage à 7 ans et demi. J'étais inscrit à la natation, je crois, à l'âge de 6 ans. J'ai dû lâcher la natation pour continuer le patinage.
Un trampoline aussi, non?
Trampoline, ça c'était en même temps et c'était en complément de l'apprentissage du patinage pour me donner des impulsions. C'était un peu du travail, en même temps c'était du ludique. Et puis du coup, je me suis pris vachement à ce sport et j'ai même fait un championnat à Île-de-France de trampoline. Alors c'était marrant, c'était un autre univers, mais c'était marrant, c'était la compétition, c'était autre chose. Et puis c'était sympa à faire, quoi.
Donc ça veut dire le sport toujours au centre de la vie quand même?
Oui, je pense que j'avais un destin, de toute façon, je pense à toucher au sport. J'étais pas, le fait que j'ai commencé le sport très très tôt, bon, j'avais des aptitudes, et j'aurais pu faire, je pense, une carrière sportive, bon, peut-être dans d'autres sports aussi, quoi. Peut-être pas spécialement dans le patinage, mais si on m'avait mis, je sais pas moi, au ping-pong, à l'athlée, peut-être j'aurais fait une aussi belle carrière. En tout cas, j'aurais espéré, mais à partir du moment où on maîtrise un sport où il y a de l'équilibre, je pense qu'on maîtrise pas mal de sports.
Alors, la rencontre avec le patinage était en 80. Un souvenir de cette première rencontre avec la glace, donc sortie scolaire.
Sortie scolaire en primaire. On avait la chance qu'à Colombes, on avait une patinoire. Donc, toutes les écoles primaires bénéficiaient d'une heure de patinage par semaine. Et c'est comme ça que j'ai découvert le patinage. Et c'est aussi comme ça, je dirais, ma plus grande chance. C'est comme ça que mon entraîneur de toujours, monsieur André Brunet, que j'appelle papy, lui, par contre, c'est lui qui m'a découvert, en fait, sur cet univers magique de la glace où il y avait une senteur un peu particulière quand on rentrait dedans. C'est lui qui a vu que j'avais un potentiel énorme et qu'il fallait absolument que mes parents lui soient présentés et que je puisse venir à l'école de glace. C'était son souhait. Et puis, je suis passé très vite du stade de club à stade d'école de glace. Mes parents ont fait le pas. C'était pas facile à 8 ans de dire à son gamin, tu vas quitter un cursus scolaire normal pour aller dans un sport-études. Bon, l'avantage qu'on avait, on avait tout sur place à Colombes. On avait une directrice d'école. Les écoles étaient réunies entre piscine, patinoire et tennis. Donc, ça permettait vraiment de partir confiant, si vous voulez. On pouvait s'entraîner 6 heures par jour et en même temps, on avait 4 heures de cours par jour. Et tout était sur place, la cantine aussi. Donc, il y avait une vraie structure. Bon, après, au bout de 4 ans, ça s'est un peu cassé la gueule, ce qui est dommage. Mais en tous les cas, cette structure qui existait m'a permis de rentrer dans le cursus École de glace et de devenir champion de France Espoir en l'espace de 2 ans.
Ouais, ça a été très très vite, on va revenir sur le parcours. Il y avait en tous les cas, et c'est ce qui a fait tilt, je crois, dans l'œil d'André Brunet, c'était le plaisir de patiner, surtout qu'on trouve pas forcément chez tout le monde.
Oui, ça, effectivement, lui, il trouvait que j'avais... une aisance par rapport à mes camarades de classe et voilà, il a trouvé que j'étais très à l'aise, que j'étais très rapide et que j'étais très vif et voilà. Puis moi, ce qui me plaisait dans ce sport, c'était la difficulté technique qui existait. Pas le côté artistique, parce que moi, vous me parliez d'artistique à l'âge de 8 ans, je savais pas du tout ce que c'était. Moi, j'étais un banlieusard, donc je jouais au foot, je me bagarrais tous les jours. Et rentrer dans un monde où il fallait faire de la danse classique, ça me paraissait très bizarre. Mais par contre, il y avait une réelle difficulté technique qui était dure à maîtriser, et c'est ça qui m'a attiré. Et je pense que c'est ce qui attire aujourd'hui les jeunes garçons qui veulent faire du patinage, parce que quand on monte sur la glace, on se rend compte que c'est pas du tout facile. Après, bon, l'aspect artistique, moi j'ai su le faire évoluer, ce que ça a donné avec mes programmes à thème et ce que les gens connaissent de moi aujourd'hui.
L'aspect artistique, justement, c'est aussi un peu ce qui a posé problème. Quand on est enfant, faut pas se démarquer, on a envie d'être intégré. Le fait de faire du patin à glace quand on est garçon, c'est pas forcément bien vu par les copains.
En fait, moi ça a fait plutôt le contraire, c'est-à-dire que j'ai adoré en fait le fait d'être sur une scolarité différente des autres. Donc, c'est vrai que le côté se démarquer pour moi était très présent dès le départ.
Et c'est ce qui fait qu'aussi après, il y a eu cette envie de plus de spectacles et de bouleverser un peu et de dépoussiérer un peu le patinage.
Très, très certainement en fait, hein, ce plaisir de pas faire comme tout le monde, voilà.
Il y a un moment où on se dit, allez, je plaque tout et c'est vraiment là-dedans que je vais m'investir. Ça se passe comment? Ça s'est passé à quel moment? Quasiment dès le début?
C'est par étapes. Comme j'ai commencé en CP, l'étape elle était plus ou moins facile à ce moment-là. J'ai eu un très bon cursus scolaire jusqu'en CM2. Après, notre directrice d'école est partie, tout le cursus école de glace, sport études s'est cassé la gueule. Et là, on a commencé à avoir des difficultés. Il a fallu que je retourne sur des horaires aménagés à l'école normale. Et ça, par contre, ça a commencé à être un échec scolaire pour moi parce que je m'entraînais encore 6 heures par jour à l'époque. J'avais que 3 heures de cours par jour. Donc, j'ai perdu pas mal de bases et des données à l'époque de la 6e. Donc, j'ai fait un mauvais démarrage déjà à partir de la 6e. Donc, ça a été rattrapé en 5e parce que je suis revenu en cours par correspondance après. Et ensuite, pareil, 4e, 3e, j'ai arrêté en 3e après avoir fait une 3e sur 2 ans où j'ai rattrapé un très très bon niveau de 3e. Et j'ai arrêté après à l'âge... J'avais, je crois, 17 ans, un truc comme ça. J'ai fini là-dessus parce que je me suis dit, de toute façon, je peux pas faire les deux. Donc ça, c'est un choix à faire. Parce qu'à un moment donné, soit vous choisissez le sport de très haut niveau, et malheureusement, les études sont un peu mises de côté, mais en même temps, je pense que j'ai fait le bon choix. Par contre, ce que je souhaitais, c'était pas être trop con, et puis au moins avoir un bon niveau de troisième avant d'arrêter. Voilà, je me suis au moins donné cet objectif-là, et je l'ai atteint, comme ça, au moins, j'ai su calculer mes sous pour plus tard.
Et puis justement, on en parlera tout à l'heure, mais au niveau financier, c'est un investissement aussi pour la famille, pour les parents, donc il y avait une certaine responsabilité, j'ai envie de dire, sur cet engagement-là.
C'était une grosse responsabilité de la part de mes parents. C'est vrai que pendant 2 ans, ils ont pu subvenir aux besoins de ma carrière, parce qu'on n'était pas tout seul. J'avais quand même 2 frères et 1 sœur, donc aussi ils avaient besoin de faire des activités, de bouger, de vivre, ce qui n'a pas été facile. Tout le monde a fait un peu le sacrifice. Au bout de 2 ans, ça a commencé les grosses complications financières. Donc on a dit à l'entraîneur, mes parents ne pouvaient plus continuer de payer. Donc comme j'étais champion de France, ça a aidé au club, à la région et à la fédération de nous aider un petit peu financièrement. Et l'entraîneur André Brunet a fait l'effort de pas me faire payer les cours pour que je puisse continuer. Donc il a investi vraiment beaucoup de temps, beaucoup de patience, beaucoup d'argent sur moi en fait, quelque part.
Quand vient la fin de l'été, sur la plage.
Espace public, Sébastien Lecoeur, Philippe Candeloro.
Alors Philippe Candeloro, le parcours professionnel a commencé donc en 91, on va dire véritablement avec les championnats de France. Ça se passait à Colombes, hein, d'ailleurs, avec un podium, une médaille de bronze. C'est une entrée plutôt fracassante, à 19 ans à peine. C'est une entrée, on va dire que tous les jeunes rêveraient un petit peu de démarrer comme ça.
Ça a bien commencé avant, parce qu'en 82, je crois, j'étais champion de France Espoir. J'ai détrôné un mec qui était là depuis 3 ans déjà. Et c'est ça, ça a fait déjà chambouler tout le système, parce qu'un mec qui, au bout de 2 ans, qui arrive et qui est champion de France, voilà, ça se voyait pas, c'était pas normal. Et après, bon, j'ai été 5 fois champion de France junior avec des changements de catégorie, des championnats du monde junior aussi. Là, j'ai rarement fait des médailles aux championnats du monde junior. Je fais des performances genre 5e place. J'ai formé mon expérience sur les championnats juniors internationaux. Je me suis fait un peu connaître là-bas. Et puis la première médaille d'argent au championnat d'Europe, c'était effectivement en 91 à Helsinki, juste devant Eric Milo, qui était donc lui 3e. Donc ça a été un petit peu le démarrage médiatique de Candeloro, de Milo et de l'équipe de France qui suivait derrière de très près les Duchesnais. Après 91, c'est monté step by step tous les ans, quoi.
Ça ne s'est pas arrêté, mais même en championnat junior, une 5e place, je crois qu'il y a beaucoup de gamins qui seraient fous d'atteindre déjà un tel niveau. Vous, il y avait vraiment cette rage du sportif de se dire non, 5e, pour moi ça va pas, moi je veux plus et je peux plus à la limite.
C'est paradoxal parce qu'en fin de compte, je me suis jamais posé la question de savoir si je pouvais aller plus loin, tant qu'en résultat, tant qu'en niveau technique, parce que même en junior, en fait, en faisant 5e, je maîtrisais déjà le triple axel, qui était la performance la plus importante du moment à cette époque-là, même chez les seniors. Donc je me disais, non, mais de toute façon, il faut que mon temps passe tranquillement. Puis à l'époque, le patinage, c'était t'attends que les vieux s'en aillent pour prendre leur place. C'était encore plus hiérarchisé que maintenant. J'ai connu aussi l'époque où les jeunes, s'ils étaient meilleurs, ils te foutaient à la rue. Mais ça a été une évolution en fait progressive, et puis on s'est pas précipité, on n'a pas voulu brûler les étapes.
Quand on regarde le palmarès d'une manière générale, alors j'avais pris quand même quelques notes, médaille d'or au championnat de France, donc 4 années de suite, entre 94 et 97, les médailles d'argent, championnat d'Europe Helsinki et Paris, les succès en championnat du monde avec l'argent à Chiba, le bronze à Birmingham, les médailles olympiques, au passage, on les oublie pas, Lillehammer et Nagano. Quand on regarde en arrière, on est fier de soi, ou encore une fois, c'est vraiment le côté compétitif et on se dit, j'aurais sans doute pu faire mieux et il y a quand même des déceptions.
On peut toujours dire qu'on aurait pu faire mieux, j'aurais pu gagner la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Moi, j'étais pas un champion du monde de la technique, j'étais bon techniquement parce que je maîtrisais quand même mes sauts, mais j'étais très très fort mentalement. Et qu'à un certain degré de compétition et un certain niveau, c'est ce qui prime. C'est d'être fort mentalement pour réussir ce qu'on fait à l'entraînement et le faire en compétition enchaîné de 8 triples sauts. Donc là-dessus, j'ai assez bien géré. Là, je dis, en fait, quand on est sur le moment qu'on fait ces médailles, on n'est pas très fier de soi. On se dit que c'est une récompense par rapport au travail qu'on a fourni. Et en fait, c'est seulement un peu aujourd'hui, quand, comme j'ai commenté les Jeux Olympiques là, l'hiver dernier à Turin, c'est seulement à ce moment-là que j'ai commencé à réaliser, à me dire, mais finalement, faire 2 médailles de bronze à deux Olympiades d'écart, finalement, ça relève presque de l'exploit aujourd'hui. Et c'est seulement aujourd'hui, en fait, que je me rends compte que c'était vraiment un truc important et un truc bien que j'avais fait, alors qu'à l'époque, bon, ça faisait partie du résultat logique parce qu'on avait travaillé pour ça.
Ça veut dire aussi qu'il y a des échecs. Il y avait les championnats d'Europe à Dortmund où on vous attendait un peu au tournant.
Pour vous, c'est tout de suite après Lillehammer. Évidemment, la saison d'après, tout le monde attendait que je me plante pour pouvoir me fracasser un peu, puisqu'ils en avaient un peu marre de me voir à la télé, de faire toujours un peu. Mais justement, moi, j'ai tout assumé en même temps. J'ai assumé la médaille olympique de Lillehammer, la notoriété qu'il fallait en profiter, le côté business qui se découlait derrière, fallait aussi le créer, fallait aussi en profiter. Donc tout ça a fait qu'effectivement j'ai accumulé des choses et de la fatigue et je me suis un petit peu décentralisé de mon objectif principal, c'est-à-dire encore de continuer à faire des médailles. Forcément Dortmund, championnat d'Europe, saison d'après, je me prends une torgnole, mais en fait je finis 5e. Ce qui est déjà pas trop mal.
Et puis les échecs sont importants aussi parce que ça vous permet de vous relancer, de rebondir vraiment derrière.
Vous faites pas une carrière réussie si vous n'avez pas connu d'échecs. Parce que de toute façon, l'échec fait partie de la réussite. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas un programme qui m'a plu plus qu'un autre, ou une compète, ou une médaille qui me laisse plus de souvenirs qu'un autre. Ce qui est sûr, c'est que la dernière médaille de bronze à Nagano, pour moi, c'est la récompense finale, parce que j'arrête de patiner derrière en amateur. Ça se passe au Japon, au pays où tout le monde m'aime bien, avec un programme d'Artagnan, et super bien patiné. Donc forcément, quand on a tout ça, on est super content.
Et puis, face aux échecs, il y a le feu des médias aussi. Hein. Ils sont là, on vous adule quand il y a des réussites. Malheureusement, quand ça va moins bien, on n'hésite pas à vous descendre. Laure Manoudou a connu ça il n'y a pas longtemps, où on parlait plus d'elle que de l'équipe. Finalement, quand elle a commencé à mal démarrer, on l'a mettait de côté, et puis on l'a remis un peu
ça,
sur le devant.
C'est un petit peu le mal français, je dirais. C'est comme aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, moi, je fais plus de la compète amateur, donc les médias ont besoin de trouver un nouveau citron à presser pour donner à manger à ses lecteurs. Moi, je trouve ça ridicule qu'on veuille éliminer un Candeloro pour pouvoir mettre un Joubert, par exemple. On est deux personnalités différentes. On a marqué notre temps du sport à des époques différentes. Et pourquoi en éliminer un pour le remplacer par un autre? Faut additionner le patrimoine de notre sport avec nos champions. Il faut respecter notre époque avec ce qu'on a fait comme prouesse. Parce que évidemment, Nagano, c'était déjà il y a 8 ans. Bon, 8 ans après, on peut pas comparer techniquement le même sport.
Et on arrive à se blinder face à ce retournement de veste des médias par moment.
Bah, je dirais que quand on en prend plein la gueule, à un moment donné, on se dit après, on a plus rien à perdre et que il faut savoir rechuter pour pouvoir remonter.
Alors en 98, après Nagano, vous avez décidé d'arrêter la compétition amateur. Comment on prend la décision?
Écoutez, moi, ça a été très simple. Hein, la décision de passer pro, elle était dans le couloir de la mort, j'appelle ça, après mes 6 minutes d'échauffement de Nagano sur le D'Artagnan. Et j'entendais les notes de mes concurrents, leur musique, les applaudissements. Et là, tu marches, tu fais les 300 pas dans le couloir et là, tu te dis... Là, j'y vais pas, là. Je rentre chez moi, allez. Je disais à mon prof, allez, je crois vraiment là que c'est la dernière, quoi. Quand vous êtes jeune, que vous avez la patate, machin et tout, que vous avez envie de bouffer les vieux qui sont devant vous et qui sont meilleurs, vous n'avez pas cette impression de peur et d'angoisse qui est là, qui vous fusille les jambes. Mais, je me souviens, Nagano, très très bien, je me suis dit, Là, je sens vraiment que c'est la dernière. Comme je sens aujourd'hui que bientôt, il faut que je mette la clé sous la porte parce que physiquement et mécaniquement, je commence à avoir un petit peu de mal à assurer techniquement ce que je veux réaliser sur la glace.
Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la décision pour l'univers professionnel, elle est prise aussi ?
Elle est prise aussi. En fait, j'aime bien pouvoir décider de mon destin. C'est-à-dire, au lieu de vieillir et de dire que j'ai fait un gala de trop et que je finis mal ma carrière et ma vie, sur, en tout cas ma vie professionnelle en tant que patineur, je préfère dire, bah voilà, moi, j'ai décidé que 10 ans après Nagano, j'allais faire un spectacle d'adieu, un jubilé, dire au revoir au public qui m'a soutenu, qui a aimé mes performances, histoire de faire la fête tous ensemble une dernière fois, tirer ma révérence, qui revoit une dernière fois tous les personnages, tous les programmes que j'ai pu faire, et puis voilà, se dire au revoir mutuellement, parce que ça, c'est un cadeau que je leur fais, mais un cadeau aussi que je me fais, c'est parce que j'ai pas envie de partir comme un voleur, et je pense que c'est important pour les Français, c'est important pour moi, de me dire, ben voilà, maintenant j'arrête aussi de patiner pour faire producteur de spectacle, puisque c'est le métier que j'ai envie de faire plus tard.
Instantanément proche de vous.
Non plus que tous les habitants du zoo, même le gardien, sa femme et son chien.
Espace public, Sébastien Lecoeur, Philippe Candeloro.
Philippe Candeloro, avant tout, c'est une personnalité, hein, je crois, qui fait que vous êtes aussi ancré dans le cœur du public, pas seulement le public français, on va parler de différents publics. Pour vous, d'abord, la personnalité de Philippe Candeloro sur la glace, on la définit comment ?
Ouais, c'est la simplicité, je pense, et puis le vrai. C'est...
Comme dans la vie, finalement.
Comme dans la vie. C'est-à-dire que moi, quand je suis sur la glace, j'ai pas envie de m'économiser, quoi. J'y vais à fond parce que sinon, ça fait pas vrai et le public, on dupe pas un public. En tout cas, on le dupe pas longtemps. Ça peut marcher sur un one shot, mais pas sur du long terme. Donc, ça, j'ai su donner et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai reçu aujourd'hui.
Et c'est aussi oser, c'est l'originalité. On parle notamment des figures que vous avez été le premier à réaliser, notamment la série de sauts pieds joints en avant, la pirouette sur les genoux, et puis des réalisations parfaites, notamment de triple axel, backflip. Ça aussi, c'était une volonté de se démarquer et de voilà, de dire je vais être différent, peut-être aussi par le côté spectaculaire, mais il faut que techniquement derrière j'assure pour qu'on puisse pas me le reprocher.
Ouais, bah c'est sûr que quand on fait des programmes à thème ou par exemple Lucky Luke où je me fous de la gueule des juges, j'ai pas le droit à l'erreur. Donc il faut aussi que quand vous osez quelque chose, il faut que vous ayez aussi des armes pour vous battre. Donc moi mes armes c'était aussi la technique. Je maîtrisais quand même super bien le triple axel et tous les autres triples sauts. J'ai eu maîtrisé le quadruple boucle piqué à l'entraînement que j'ai jamais pu placer en compétition. C'était pas la même époque qu'aujourd'hui. On en avait pas spécialement besoin pour gagner. La preuve, j'ai pas été champion olympique, mais j'ai été médaillé de bronze sans quadruple finalement. Après la partie backflip, tout ça, il faut pas avoir peur. C'est-à-dire que pour tenter backflip, évidemment, il faut avoir un mental de taré parce que sinon tu pars pas dans le backflip sur la glace quand tu es à 30 ou 40 km/h et que tu te demandes de te balancer en arrière. Il faut avoir des roubignoles comme on dit.
Et sur l'originalité, il y a aussi donc les personnages évidemment qui ont fait la renommée de Philippe Candeloro, Conan le Barbare, le Parrain, Lucky Luke, D'Artagnan, Braveheart, Napoléon, Rocky, Yuri Gagarin, ou encore Austin Powers. Ça c'est des choses qui ont vraiment marqué, notamment le public américain qui aime vraiment ce côté showman. Dans la sphère professionnelle, en revanche, au niveau des jurys, ça a été plus difficile. On vous a reproché un peu de confondre la compétition, en gros, et les galas d'exhibition.
Ouais, mais après tout, peu importe. Je dis ça, peu importe, parce que finalement, moi, j'ai laissé une trace par mes performances, pas par mon nom. Donc aujourd'hui, moi, je sais très bien que des gens se souviennent plus du mec qui a patiné en noir ou du mec qui a fait le programme à l'épée que le champion olympique qui a gagné la même année. Même s'ils connaissent pas mon nom.
Et sur ces personnages, votre coup de cœur, c'est quoi ? C'est Conan le premier ou c'est le parrain avec les 3 médailles associées ?
Non, moi je pense. Bon, il y en a un que j'aimais bien patiner, c'était Braveheart. Parce que la musique était jolie et puis c'était un personnage assez fort. Après, bon, le D'Artagnan, c'est pas la même chose. J'ai été champion du monde pro avec Braveheart. Mais c'est pas le titre qui m'a donné le plus de plaisir avec les programmes. Moi, je pense que les uns et les autres ont été tous sur la même ligne, si vous voulez. Je me suis entraîné dur pour les pratiquer.
On parle du public français. Va falloir nous expliquer quelque chose. Il y a quand même cette spécificité du public féminin japonais avec une vraie folie.
Ouais. Alors au Japon, c'est venu comme ça effectivement en 94. On n'a pas compris pourquoi moi plus que Stoïko. Stoïko était meilleur que moi à l'époque. En général, les Japonais s'intéressent plutôt aux vainqueurs plutôt qu'au deuxième ou au troisième. Nous, on a expliqué ça dans le fait que il y a 10 ans, le Japon était juste en train d'éclore. Il était en train de se rebiffer un petit peu socialement, il était en train de se découvrir. Et je crois qu'ils ont vu un mec, moi en l'occurrence, sur la glace, arriver, enlever son t-shirt, faire des choses qui étaient contre la règle de la compétition. Et je crois que ça les a un peu réveillés, ces jeunes filles qui effectivement étaient folles de moi. Et puis j'étais gentil parce que je donnais, ils me donnaient, c'était les fleurs, c'était les cadeaux. Moi j'adorais recevoir les peluches, je ramenais tout en France parce que je voulais pas jeter, mon côté économe qui revient là. Mais moi je sais pas, à chaque fois je dis côté économe, mais en fait c'est parce que je suis contre le gaspillage. J'aime pas jeter des trucs, c'est naturel. Et voilà, donc je pense que là, après en France, je pense qu'il y a ce capital sympathie parce que j'ai beaucoup d'humour, même sur moi-même, par moments, avec les guignols. Voilà, j'ai pas réagi négativement. Je crois que les gens avec moi ont l'air de bien se marrer, et puis ils passent surtout un bon moment avec un gars simple qui les ressemble à 70% de la population française. Donc parce que je suis un gars de banlieue, parce que je dis ce que je pense et que je me prends pas la tête non plus, quoi.
Vous parlez de vos défauts aussi, vous montrez souvent à la télévision des divertissements sans penser à l'image que ça peut donner. C'est aussi une volonté de garder la tête froide, de rester au plus près du public.
Surtout déjà rester le plus près possible de moi-même. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui du jour au lendemain deviennent des stars ou des VIP et puis ils s'enferment dans un cercle vicieux où en fait ils osent plus sortir, ils osent plus faire des choses. Leur agent leur dit de dire ça, leur attaché de presse leur font faire ça, ça, ça et ça, et puis c'est pas leur vraie nature finalement. Moi j'ai toujours eu la chance, et puis peut-être c'était moins professionnel et moins star system, mais en même temps c'est plus naturel et je maîtrise mon destin aujourd'hui. C'est-à-dire que je fais les choses que j'ai envie de faire. Je me sens pas obligé ou poussé par quelqu'un d'être obligé de faire ça. Je fais encore mes courses au supermarché parce que c'est comme un test pour moi. C'est de dire, voilà, je vois l'évolution des prix du marché. Deux, je continue à faire mes courses parce que si tout ce bordel s'arrête du jour au lendemain, qu'est-ce que je fais moi? Si pendant 10 ans j'ai pas mis les pieds dans un supermarché, ça va me faire tout drôle. Et j'ai toujours ça en tête parce que je sais qu'à un moment donné, tout ce Trafalgar, le côté médiatique, le côté amical, un jour ou l'autre, ça va certainement s'arrêter. Et donc, j'ai pas envie d'être perdu moi-même. Et puis après, effectivement, moi, j'ai plutôt la part sympathique des gens parce que c'est toujours une poignée de main, un sourire. C'est rare que les gens m'aient traité de con, quoi.
Non, pas sur la bouche, même si c'est louche, puisque ma langue.
Espace public, Sébastien Lecoeur, Philippe Candeloro.
On finit, Philippe Candeloro, avec l'avenir. Dans le livre qui était sorti l'année dernière, la bio Candel, Rebelle et Fidèle, il y a une petite catégorie j'aime, j'aime pas. Dans les j'aime, il y a la machine à remonter le temps. Si vous l'aviez aujourd'hui, vous reviendriez à quelle époque pour changer quoi?
Peut-être la 5e République, déjà, pour commencer. La taxation, le côté social, la protection de notre environnement, de notre pays, tout ça, je pense qu'on a laissé, on a délaissé un petit peu notre pays, et ça, on le doit quand même beaucoup à la politique. C'est vrai qu'ils ont fait avec ce qu'ils peuvent, avec l'évolution du temps, mais je pense qu'aujourd'hui, on est un petit peu dans la merde parce que les 3-4 derniers mandats, les gens se sont pas sentis concernés, sauf par le pognon. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Après, pour le côté amusement, je me serais bien vu dans l'époque de D'Artagnan, moi, les courtisanes, draguer avec de l'humour, avec beaucoup d'aisance, et jouer, en fait. Jouer et jouir de la vie. Ça, je pense... Bon, après, il y avait des moments plus difficiles parce qu'il fallait se battre, et puis quand on provoquait un duel, fallait pas se dérober, quoi. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui se perd en France. Aujourd'hui, on peut défier en se défilant. Et ça, c'est trop facile. Voilà. C'est pour ça aussi qu'il y a peut-être moins de vrais hommes sur Terre.
La réalité, c'est votre entreprise, la CISM, avec également l'association Ice Candle Art, fondée avec votre épouse Olivia. C'est plus donc de la promotion de spectacles. C'est ça qui vous intéresse, et c'est un peu finalement tout ce qui vous a toujours attiré. Vous l'avez mis dans la compétition professionnelle. C'est de mettre du show et d'aider les patineurs à abandonner peut-être un peu plus le côté technique et de développer ce sens artistique.
Pas abandonner, sinon on va se faire tout de suite des ennemis au sein de la fédération qui vont penser qu'on va leur piquer des élèves. Et moi, je pense que c'est leur travail aujourd'hui de se préoccupé de que devient un patineur après 10 ans de pratique dans un club pour essayer de devenir un champion. Que devient ce patineur qui veut arrêter parce qu'il n'a pas réussi à passer son double axel. Voilà.
Aujourd'hui, ils sont abandonnés.
On lui dit merci monsieur, on n'a plus besoin de vous, cassez-vous. Voilà. Moi, ce que aujourd'hui dans l'association, on récupère des gens qui avaient décidé d'arrêter de patin et parce qu'ils ils patinaient avec la tête baissée, un petit peu forcée, tout ça. Moi, aujourd'hui, je vois que des gamins dans le spectacle, ils ont 1000 personnes à séduire et c'est ça l'objectif. Et on les ouvre artistiquement à des choses qu'on leur a brimées pendant 10 ans de pratique. Parce que pendant 10 ans, on leur a dit non, ce qui compte, c'est le double axel, qui est une étape très importante. Et après, il faut passer au triple, évidemment, mais le double axel est une étape hyper importante dans le cursus du patineur. Et tant que vous passez pas ce saut, il faut travailler. Et on travaille bien souvent que la technique. On travaille pas assez l'expression artistique, alors qu'aujourd'hui, en plus, avec le nouveau système, c'est très important. Et moi, je vais même plus loin, c'est-à-dire que je veux préparer un avenir pour ces patineurs en cas où ils subissent un accident de parcours. Après, le business du spectacle sur glace en France, il n'est pas du tout développé. C'est-à-dire que moi, demain, je suis producteur de spectacle. Si je veux produire une comédie musicale sur glace, j'ai pas un patineur prêt à l'emploi aujourd'hui. Donc, ça va être très difficile pour moi de trouver des patineurs prêts à l'emploi, en tout cas des patineurs en plus français. Il va falloir que j'aille me taper des castings internationaux pour faire travailler les étrangers plutôt que d'essayer de faire travailler des Français qui ont un bon talent, qui ont un bon niveau, mais qui n'ont pas été préparés à faire du spectacle pour patiner en individuel ou en groupe. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu avec Alice Candela. C'est une démarche, c'est une évolution. Maintenant, on verra le temps que ça durera. Il faut que les gens comprennent qu'on n'est pas là pour essayer de piquer des élèves à Pierre, Paul, Jacques, mais plutôt à essayer de redonner une deuxième vie à un patineur qui aurait décidé d'arrêter sa carrière de sportif de haut niveau. Et on développe plus son côté artistique que son côté technique.
Et donc, on le découvre sur le www.icecandelart.com. Notamment, on a toutes les infos. Un dernier mot avant de nous séparer. L'avenir de Philippe Candeloro, en dehors de la production, c'est pourquoi pas la télévision. On vous voit beaucoup. Vous avez commenté les derniers JO d'hiver, on l'a dit, mais dans des émissions de divertissement, pourquoi pas une propre émission animée, voire même le cinéma, la comédie, vous l'avez joué, une spéciale Un gars et une fille, on s'en souvient. C'est une vraie envie, une vraie passion pour le cinéma.
En fait, c'est parce que les gens, à force qu'ils me disent tu devrais essayer le cinéma, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, je me dis finalement, peut-être, ils ont peut-être raison, finalement, je devrais me pencher sur le truc. Et alors animer une émission de télé, c'est vrai qu'en ce moment, je fais beaucoup d'appels du pied de tous les producteurs d'émissions de télé et notamment les chaînes. Après, le cinéma, pour l'instant, je viens de recevoir un nouveau script qui parlerait beaucoup de roller, qui pourrait me satisfaire, et on est en train de partir peut-être sur une production. Enfin, en tout cas, le réalisateur lui travaille maintenant sur la production de ce film, et puis on verra si ça tient la route.
L'envie de pas faire n'importe quoi en tous les cas, et de bien choisir et de prendre le temps de pas se lancer juste pour faire du cinéma en un éclair et de disparaître, quoi.
Parce que moi, je veux dire, aujourd'hui, j'ai déjà connu la gloire, le public, les applaudissements. Donc je vais pas faire tout et n'importe quoi pour aller me lancer vers un nouveau monde. Déjà, c'est du travail. Cinéma, acteur, c'est quand même du boulot. Donc le mec qui aura compris qu'aujourd'hui, c'est vrai que je pourrais être un bon acteur parce que j'interprète bien pour du public. Est-ce qu'à la caméra, j'interpréterai aussi bien? Et je crois qu'il faut le faire tant que j'ai ce côté un petit peu inconscient du gamin que je suis resté dans ma tête, tout en étant aujourd'hui père de famille, où je suis conscient que tu peux pas rester gamin toute ta vie. Mais si j'attends trop longtemps avant de commencer à faire du cinéma, je pense que ce sera foutu. Donc il faut pas trop tarder, et puis il faut trouver un réalisateur qui va me trouver le bon script pour moi, quoi.
Affaire à suivre, donc, en tous les cas, Philippe Candeloro. Avant de se séparer, on a quelques exemplaires de votre biographie. Candel, Rebelle et Fidèle, aux éditions Et les Bords. Vous le signez pour ceux qui seront les plus rapides au standard?
Je vais signer pour celui qui sera le plus rapide. Puis j'ai envie de faire un truc un petit peu délire. On va dire, la première Nathalie qui téléphonera, je le fais dédicacer à Nathalie.
Eh ben, allons-y.
Déjà, il y en a un qui est foutu parce qu'il est que pour une Nathalie. Alors Nathalie, voilà, gros bisous à Nathalie. Et bravo. Voilà, c'est que t'auras été rapide.
Voilà, donc pour la première Nathalie qui nous contacte, et puis ensuite d'autres ouvrages pour les suivants. Philippe Candeloro, mille merci en tout cas de nous avoir consacré du temps ce soir sur France Bleu Creuse, d'avoir passé cette émission Espace Public avec nous. On vous souhaite bonne continuation pour toute cette tournée avec Terre et Voyage qui était à Limoges, qui va se déplacer également en Corrèze. On va donner les dates dans un instant, dans le courant du mois de novembre, et puis on vous dit à bientôt sur la glace ou en dehors.
Avec plaisir. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir de rencontrer les gens qui ont aimé ce que j'ai fait et ce que je suis. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une excellente santé, à l'approche aussi des fêtes de Noël, un très bon Noël, et puis voilà, une bonne année 2007 à vous tous.
Merci Philippe Renelo, à bientôt.
Des mots, des phrases qui ne font grossir que de l'âme.